Nous sommes le jeudi 19 février, il est 21h et des poussières sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier. T'es que d'un côté pour moi.
Ben c'est pas grave.
Tu es en mono du côté droit, mais je ne sais pas pourquoi.
Mais c'est pas grave. De toute façon, lorsqu'il y aura le replay de l'émission, il sera en mono, donc tout ira bien.
Oui, très bien. Mais écoute, je vais juste être sûr que tout fonctionne bien. Vous m'entendez?
Oui.
Oui, okay. On t'entend très bien.
Eh ben écoute,
Romain, bien. Quand il ne prend pas soin de sa de cette émission avec la minutie d'un papa chat.
T'as déjà vu un papa chat s'occuper de bébé chat?
Non.
Voilà.
C'est bien pour ça que je parle de ça. Romain, il a choisi de présenter et réaliser cette émission plutôt que de streamer l'Indie Fan Fest et son pourtant très alléchant programme de jeux à venir, et c'est tout à son honneur. Merci à toi.
C'était à 19h, absolument. Et je pense que c'est fini maintenant, mais on en reparlera.
Effectivement. Bonsoir Bettina.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Ça va claquer, mais ça va.
Écoute, Bettina, en plus, elle a affirmé avoir préparé cette émission et que cette préparation l'a beaucoup inspirée, notamment par les méthodes de Xi Jinping en termes d'organisation hiérarchique. Donc préparez-vous cette année à quelques petits changements du côté de Midi Gamion qui sera millimétré comme une parade militaire à Beijing.
Bah, en fait, c'était déjà le cas avant, mais oui.
Mais les gens n'avaient pas le droit de parler.
Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et Radio Canu pour l'accès au studio. Cette semaine, on va parler du tentaculaire groupe chinois NetEase et de ses nombreux studios, notamment occidentaux, qui ferment les uns après les autres en ce moment. Mais d'abord, on va vous donner des nouvelles des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et sur ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Oui, et je vais vous parler de Factomancer, parce que sa page Steam vient tout juste d'être publiée.
J'ai trouvé cet après-midi, effectivement, oui.
Ah, tu es toujours sur le qui-vive.
Toujours.
C'est le premier jeu du studio lyonnais Voltage Games. C'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que j'y ai pas encore joué. Néanmoins, je vais quand même vous le présenter. C'est un roguelite d'automatisation dans un univers où magie et technologie s'entremêlent. Donc en fait, le jeu mêle construction d'usine et progression roguelite, dans le sens où chaque run a des objectifs évolutifs et est unique. Les maps changent à chaque partie et des événements viennent mettre à l'épreuve vos stratégies. Le temps qui nous est donné pour accomplir les missions est limité et il faut donc savoir prioriser tout en sachant réagir à l'inattendu et trouver le juste équilibre entre planification et improvisation. Tout ça fait que Factomancer nous promet une forte rejouabilité et le studio espère le sortir d'ici la fin de l'été 2026. Ou peut-être un peu plus tard, parce que voilà, on sait que c'est très souvent le cas d'avoir un peu de retard de quelques semaines sur des productions de jeux vidéo. En tout cas, en attendant, vous pouvez ajouter Factomancer à votre wishlist pour leur donner de la force.
Yes, et puis surtout, comme souvent avec ce genre de jeu très rogue, très mécanique, c'est bien d'avoir. On espère avoir une démo ou en tout cas de quoi avoir joué.
Ouais. Ouais.
Si on peut, enfin si c'est prévu pour l'été, ils ont le temps, hein, bien sûr.
Oui, oui.
Mais c'est le côté très mécanique par rapport autant les jeux narratifs, ouais. Tu peux te permettre de pas avoir forcément de démo, etc. Autant un truc qui paraît très mécanique, en plus automatisé et tout ça. En tout cas, la partie univers entre magie et technologie qui me rappelle toujours Arcanum ou des jeux comme ça, ben ça me passionne bien. Donc c'est plus un, comme on dit chez Ruven. Plus un sur la wishlist.
Mais c'est vrai que je leur ai pas demandé s'ils avaient prévu de sortir une démo. Je pense qu'ils vont en sortir une, parce qu'effectivement, pour ce genre de jeu, c'est plutôt attendu. Mais ouais, on verra.
Ça marche. Eh bien, merci Bettina. Ce soir, donc, comme on disait, on va parler d'un géant tentaculaire qui s'est invité partout dans le jeu vidéo occidental, mais qui à la base ne faisait même pas de jeux vidéo. Je parle donc de NetEase, qui est donc une entreprise chinoise qui est un peu trop dans l'actu ces derniers temps, notamment quand on parle de fermeture et de licenciement dans le jeu vidéo. Ce qu'on vous propose, c'est de vous parler donc de cette entreprise dans un premier temps pour savoir d'où elle vient et ce qu'elle a fait avant de s'intéresser aux jeux vidéo. Ensuite, une fois, et on parlera de ses activités dans le jeu vidéo, comment on est arrivé à la situation d'aujourd'hui où, quand on parle de NetEase, c'est forcément fermeture et licenciement. Émission gros sous lutte sociale.
Ouais. Le genre d'émission qu'on aurait pu faire sur d'autres entreprises. Mais tu as choisi tes amis chinois.
j'adore Winnie l'ourson. Allons-y. Bettina, est-ce que tu as pu préparer
un petit historique
de NetEase, hein, avant qu'il soit ces fossoyeurs du jeu vidéo, c'était quoi?
Ouais, et oui, tout à fait, je me suis renseignée là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est étrangement une entreprise méconnue de nos points de vue égocentriques d'occidentaux, mais c'est le groupe NetEase, c'est vraiment l'un des géants d'Internet et du jeu vidéo en ligne chinois. NetEase est créé en juin 1997 et en 1998, l'entreprise lance des services gratuits de messagerie électronique, des communautés en ligne, de la publicité, des plateformes internet et des plateformes de e-commerce. La société exploite des sites qui deviennent rapidement populaires comme portail web qui propose de nombreux services de justement de messagerie mail gratuite, d'actualité, de jeux en ligne, de dictionnaires, e-commerce ou encore bulletins météo. Et oui, c'était comme ça dans les années 2000.
C'est un Yahoo qui a réussi en fait.
Ouais, c'est ça.
Mais j'ai presque envie de dire, il y a un côté très, très proche de Tencent aussi, ouais, au niveau de la diversité,
c'est les numéros
et
deux,
le type de, d'activité.
Il me semble que c'est les numéros 2 chinois de ce domaine-là, juste après Tencent. Hein.
Oui, je réfléchis, est-ce que c'est numéro 1 ou numéro 2, je ne sais plus, je l'ai écrit plus loin dans mes notes.
Ok, moi j'avais vu numéro 2, mais peut-être...
Ouais. Il me semble aussi, en tout cas, ouais, jusqu'à... Enfin,
ouais, ouais.
Bon, Tencent c'est tellement gros en même temps.
Oui. Et donc ces portails-là, ouais, deviennent très très populaires. Et le portail, alors ils ont des noms avec des chiffres, je vous les ai pas cités, mais en tout cas le 163.com devient l'un des 30 sites les plus visités de la planète en 2010.
Okay.
Et donc la compagnie connaît une croissance rapide grâce en partie à son investissement dans la technologie de moteur de recherche et le jeu en ligne massivement multijoueur. En fait, c'est dès 2001 que l'entreprise se tourne vers l'édition de jeux et lance NetEase Games, sa division dédiée aux MMORPG. 2001 toujours, c'est justement le lancement de son jeu phare développé en interne, Fantasy Westward Journey, principalement connu et joué en Chine, qui connaît un énorme succès.
J'ai envie de dire quasi uniquement joué en Chine,
ouais,
en vrai, parce qu'il fait, il est...
Mais je crois pas qu'il ait été traduit d'une façon...
Non, il n'a pas été traduit, mais la version mobile est quand même assez jouée aux États-Unis, bizarrement. J'ai lu ça dans un article.
Disponible par la diaspora chinoise, j'imagine, surtout.
Ouais,
vu qu'il n'est pas traduit.
Non, il n'est pas traduit.
Vu qu'il n'est pas traduit, ça me paraît étonnant,
ouais,
que des Occidentaux,
bah ouais,
n'étant pas d'origine, n'ayant pas une origine...
Oui, le chinois n'est pas une langue beaucoup apprise en dehors... enfin, en tout cas...
Autant des jeux anglais qui seraient joués par des Européens ou par,
oui,
des Sud-Américains, d'accord, mais autant... des jeux en chinois pur,
ouais,
plus rare.
Dans le milieu des années 2000, donc NetEase devient l'un des plus grands opérateurs de jeux en ligne en Chine grâce à ses titres PC. Mais il n'y a pas que ça. En 2005, il a lancé une plateforme dédiée aux jeux en ligne occasionnels qui s'appelle Pogo Game. Je ne sais pas si elle existe encore. C'est alors que grâce à son poids, NetEase a su intéresser les exploitants occidentaux. En août 2008, Blizzard Entertainment annonçait une prise de participation dans le capital de NetEase en vue d'en faire l'un de ses éditeurs pour le marché chinois. Et donc en avril 2009, Blizzard rompt son contrat avec The Nine, exploitant historique de World of Warcraft sur le territoire chinois, pour signer avec NetEase à la place. NetEase obtient donc la licence de World of Warcraft China jusqu'en 2012, et puis cette collaboration avec Blizzard sera régulièrement renouvelée ensuite jusqu'en 2023, mais ça c'est plutôt Xavier qui va vous en parler.
Oui, en 2023, ça...
Oui. On en avait parlé d'ailleurs, je crois, à l'époque.
Oui, on en avait parlé à l'époque du fait que c'est
du
coupé...
Rachat, ouais.
Oui, je ne sais pas si on avait parlé de NetEase à ce moment-là, mais effectivement, on a dit, tiens, Blizzard qui n'était plus... Enfin, les jeux Blizzard qui n'étaient plus disponibles directement en Chine et qu'il n'y avait personne pour l'exploiter.
Parce que ça faisait partie d'en... Voilà, ils n'étaient plus d'accord.
Et c'était
ouais, c'est ça.
On le verra un peu plus tard, mais oui, c'est un plan.
Ouais.
C'était un plan.
Et donc voilà, c'est ainsi que NetEase exploita un certain nombre de licences Blizzard en Chine. En 2013, c'est le lancement de NetEase Cloud Music, un service de streaming musical qui deviendra l'un des principaux en Chine. En 2016, c'est le lancement de plateformes complémentaires de e-commerce, mais surtout c'est le basculement vers le jeu mobile. Alors qu'en 2012, la société réalisait 85% de son chiffre d'affaires grâce aux jeux vidéo, dont près de 95% provenaient de titres PC, en 2016, la majorité des revenus provenaient des jeux mobiles. Donc voilà, en l'espace de 4 ans, ça a complètement changé. En 2017, NetEase est reconnu comme le plus grand fournisseur de services email gratuits en Chine avec des centaines de millions d'utilisateurs. En 2018, l'entreprise investit dans des studios externes, exemple avec Bungie, 100 millions de dollars contre une place au comité de direction. Et 2018 toujours, NetEase prend en charge la publication de jeux internationaux comme EVE Online pour le marché chinois. Et dans les années suivantes, elle a continué d'étendre son portefeuille avec des jeux populaires et a continué de renforcer sa présence sur le marché des services web aussi. Dans les années 2020, NetEase est considéré comme l'un des plus importants groupes internet et jeux vidéo au monde. Elle a su transformer son modèle en une plateforme internet multifacette, donc jeux, musique, email, e-commerce, il y a des plateformes d'éducation aussi, enfin, etc.
Ah oui, Youdao.
Ah ouais.
Effectivement, Youdao, la plateforme d'éducation. Ben, quoi ?
Rapport avec Étienne Dao ?
Non.
Alors, on a besoin
enfin,
de toi.
Je sais pas.
On a besoin de toi pour réaliser cette émission, donc je te dis pas de dégager, mais tu vas arrêter tout de suite.
Et puis donc ouais, NetEase a su établir des alliances internationales majeures, hein, notamment avec Blizzard, et a su consolider son importance dans les secteurs du divertissement numérique et des services en ligne en Chine.
Oui. Effectivement, à ce moment-là, en fait, on est en 2020-2021.
Ouais.
Et disons que NetEase, pour le grand public en Europe ou aux États-Unis, c'est un nom assez flou encore, même si au début des années 2000, NetEase est déjà au Nasdaq. À New York.
Ouais.
Donc c'est pas rien. C'est-à-dire que souvent c'est des choses qui sont connues peut-être par des initiés que par tout ce qui va être pour tout ce qui est financement. Disons, vaut mieux parier sur eux parce que ça augmente bien, etc. Après le positionnement par rapport aux jeux vidéo occidental, en tout cas oui. Hors Chine, était relativement marginal,
ouais.
Dans le sens où c'était extrêmement tourné vers le marché intérieur. Lorsqu'il y avait des deals avec des boîtes, que ce soit japonaises ou occidentales de façon large, c'était des deals pour l'exploitation des jeux en Chine, oui. à part pour EVE Online.
Oui, ça, d'intermédiaire et pas de partie prenante, entre guillemets.
Oui, pareil, ouais. À part pour EVE Online, où là c'était pour en entier, et pour Bungie, où ils ont fait un peu comme ce que fait Tencent à Ubisoft en ce moment, c'est-à-dire qu'ils voulaient être décisionnaires. Ils mettaient des billes pour être décisionnaires.
Ouais. Mais, oui,
c'était le seul.
Mais ça, c'était avant.
En tout cas, c'était le seul où ils s'amusaient à ça. Et ça, c'était donc, on est en 2020.
Ouais, parce que j'avais lu notamment, alors je ne sais plus quel était son poste, mais c'est quelqu'un justement de l'entreprise qui disait que, bah, de toute façon, en fait, il y a déjà tellement de population en Chine qu'ils ne voyaient pas la nécessité d'aller chercher d'autres marchés. En fait, ils faisaient suffisamment de chiffre d'affaires en Chine et c'était bien comme ça. En tout cas, ça c'était, je vous dis, dans les années 2015-2016. Ouais.
Ouais, donc j'imagine que le gars a pas tenu longtemps, parce que le mec arrive en disant c'est bon les gars, on gagne assez d'argent, ça sert à rien d'aller continuer à chercher des nouveaux marchés. Mm-hmm. En général, dans n'importe quelle entreprise, le gars dure environ 4 secondes et est remplacé par un gars qui raye le parquet.
Autant, c'est pas en Chine qu'on fait disparaître des dirigeants comme ça et puis qui reviennent en disant qu'ils ont été soit condamnés, soit qu'ils ont disparu, soit qu'ils sont à la retraite. C'est pas en Chine que ça arriverait.
Bah non, c'est quand même dommage. Mais là c'est pas exactement le problème. Le mec disait juste, c'est bon, on gagne assez.
Oui, j'ai peut-être tiré le trait.
Non, mais tu vois, t'as cette approche très différente. Oui.
Je pense qu'il y a aussi donc là un mépris total de l'Occident qui
ouais,
est de,
ça, ouais.
Qui est de on fait les choses de notre manière, s'adapter à l'Occident c'est ça fait oh, c'est entre guillemets hein, s'adapter à l'Occident c'est s'affaiblir,
ça nous intéresse
et
pas,
en plus on a
pas,
une, population captive dans tous les sens du terme.
Ah oui, oui, bah les mecs ils habitent chez Netflix, hein, les
non non mais donc enfin, c'est plutôt.
Si tu veux une présence en ligne, tu passes par où, Tencent.
Pourquoi s'embêter? C'est plutôt. Je pense que c'était plutôt dans ce sens-là que le disait.
Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est
pourquoi
ça.
S'embêter?
J'entends bien, mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même un moment où il y a un mec qui a dit ouais, mais il y a quand même plus d'argent à faire ailleurs.
Oui, oui.
Alors, en fait, ça, alors oui, effectivement, mais ça s'est fait un peu par le truchement.
Par opportunité.
Par le truchement de deux. Alors, c'est marrant d'appeler ça des opportunités, je dirais des événements. Parce qu'en 2020, il y a un truc qui s'appelle le Covid. Alors, t'appelles ça une opportunité? Très bien. Très bien.
C'est probablement Chine, un complot, je pense, de Netflix directement.
Mais c'est sûr.
C'est sûr.
Ont, on parlait de diversification. Ils n'ont pas un labo PK? C'est pas eux.
Oui, oui, non, mais en plus, non, eux, ils sont plutôt situés au nord du pays.
D'accord.
Ils n'aiment pas les marchés, les wet markets, c'est pas trop leur truc. Et donc, bah, en fait, à partir effectivement de 2021, c'est à partir de là où, en Occident, on a commencé à entendre des trucs à base de NetEase rachète ça. NetEase participe à la création de tel truc. NetEase donne une somme d'argent absolument stupide à telle personne. On a entendu ça d'un coup en disant, alors, beaucoup de gens se sont dit, c'est quoi NetEase? Et d'autres gens se sont dit, tu te rends compte qu'il y a des dauphins dans le canal de Venise en ce moment? Donc, en gros, c'est passé assez inaperçu à cette époque-là. Faut pas le mentir.
Ça s'est fait petit à petit. Et puis, ça s'est fait sur des, comme tu disais, des petites participations et pas forcément des énormes trucs. Ils ont pas racheté Blizzard.
Non.
Mais après, ils ont racheté des trucs sympas.
Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que en 2020, il y a eu déjà tout le monde l'a vu, et je pense les Chinois en premier, vu qu'en plus, ils peuvent avoir des statistiques sur leur population très rapidement, sur le fait que les gens et le business du jeu vidéo étaient pas en plein boom, mais grimpaient de façon exponentielle. De façon circonstanciée, certes, mais qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'argent à se faire.
Et la question, c'est est-ce que c'était pas. D'ailleurs, cette expansion exponentielle n'était pas plus marquée dans certaines régions du monde, et du coup, peut-être plus à l'extérieur, d'ailleurs, justifierait des investissements à l'extérieur, alors qu'avant, c'était beaucoup plus en interne.
Eh bien, en fait, là, effectivement, il y a beaucoup de gens. Alors, le truc, c'est qu'officiellement, c'est une accélération de la stratégie. On achète de l'expertise occidentale.
D'accord.
Pourquoi c'est le moment ? C'est parce que les entreprises dans un côté classique sont quand même très protectrices de leurs connaissances. Elles vont pas laisser des gens partir à droite à gauche et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec tout le monde qui reste chez soi ? Les gens sont beaucoup plus vulnérables à se poser des questions, à être sensibles à des propositions et ce genre de choses. Et ça, c'est le béaba. Enfin, là, j'ai l'impression de parler espionnage mais non, c'est juste de l'opportunité entre guillemets industrielle. C'est-à-dire que normalement c'est très compliqué d'aller chercher des personnes dans des entreprises très établies. Là, c'était beaucoup plus simple de le faire parce qu'il y avait potentiellement l'opportunité à cause de l'isolement de chacune de ces personnes.
Oui, et les opportunités de télétravail qui te permettaient de garder ton rythme de vie et ton cadre de vie.
Etc. Et puis, voilà, il suffisait de titiller des gens qui étaient à des postes depuis longtemps et dire « Hey, tu pourrais faire ton propre truc. On donne plein d'argent. Tu viens ?» Bah ouais, carrément. En plus, dans des temps type incertain, type Covid, où on ne sait pas si demain il y aura encore des choses, etc. Ce qu'il prouve d'ailleurs aujourd'hui, vu que il y a eu quoi on a vu quoi? C'était un quart des postes s'était fait dégager
de l'enquête de la GDC.
C'est ouais, ça, c'était un quart, c'est ça?
Un quart sur les deux dernières années entre 2024 et 2025.
C'est absolument dingue.
Ouais. 10% avaient pas de ces licenciés n'avaient pas retrouvé de travail.
C'est ça. Donc NetEase en fait a investi dans les studios en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Principalement, en s'offrant souvent des vétérans du AAA, notamment des anciens de Remedy, des anciens de Yakuza, des anciens de Blizzard. Bon, alors le truc, c'est que
des anciens de la licence Yakuza, pas des anciens Yakuza.
On sait jamais.
Ouais. Ah. Non, mais attends, les gens qui ont fait Yakuza, je pense que... Il y a des choses au Japon, j'ai envie de dire, il y a des gens qui sont...
on pourrait en parler de Yakuza, mais c'est pas le sujet de leur doubleur actuel. Voilà, c'est un autre problème.
J'ai envie de dire, la famille, c'est important. Donc, voilà, on sait jamais.
Ah, c'est Fast and Furious. Non, c'est pas...
En fait, le truc, c'est que je pourrais faire une liste genre, bon, ouais, Canada, Seattle, Stockholm, Japon, etc. Mais bon, c'était de partout. Juste me contenter de, à chaque fois, en fait, chaque mois, il y avait un nouveau communiqué qui annonçait un partenariat stratégique avec NetEase, avec à chaque fois deux types d'annonces. Soit un studio créé de toutes pièces par NetEase, dans lequel des noms prestigieux sont embauchés, soit les dix noms prestigieux qui créent eux-mêmes leur studio et NetEase qui leur offre des sommes très généreuses pour financer, éditer et distribuer de façon exclusive les futurs jeux de ces studios. C'est-à-dire que dans la partie nous sommes très généreux, on vous file plein d'argent et puis vous faites ce que vous voulez, il y a notamment Grasshopper Manufactures, donc le studio de Suda Goichi, Grasshopper Studio, qui est plus connu pour Lollipop Chainsaw, pour les No More Heroes, ce genre de choses.
Et qui vient de sortir d'ailleurs.
Voilà. C'est ça. Pour rester au Japon, il a proposé à un ancien producteur de Dragon Quest 8 et 9 pour de créer un nouveau studio et puis de mettre l'argent dedans. Alors, Dragon Quest en Europe, ça peut être une licence comme une autre. Au Japon, c'est une institution.
Oui, oui, oui.
Genre Final Fantasy, c'est nul à côté. Ça paraît fou, hein, mais c'est vraiment ça. Dragon Quest, c'est institution, quoi. Pareil, un ancien producteur de Resident Evil vient faire ton studio. Et c'était rien qu'au Japon. Je vais pas tous les citer, j'ai juste donné des principaux. Mais du côté occidental, le producteur de Star Wars The Old Republic, on lui a dit, tiens, et si tu crées T-Minus Zero Entertainment? Bad Brain Games, donc avec Sean Crook, qui est un ancien producteur de Watch Dogs Legion et de Driver San Francisco, qui sont tous Watch Dogs Legion, je suis moins fan, mais Driver San Francisco, c'est un excellent jeu. Pareil, hein, encore Point Studio, donc je pense que dont on reparlera dans vraiment pas longtemps. Donc avec le lead designer de Control de chez Remedy, donc qui vient de là. Spliced, où c'est il y a du tout chaud, tout neuf sur le voilà.
Du jour.
Avec des anciens de GTA et de Call of Duty qui sont dedans. Rebel Wolf avec des anciens de Witcher. Jar of Sparks avec des gens de 343 Industries, donc les gens qui font les Halo. Et ce qu'on connaît le plus en France, Quantic Dream.
Et là, c'est presque encore différent, parce qu'ils ont racheté le machin, quoi.
Voilà. Alors, justement, Quantic Dream fait partie de ces studios qui ont été rachetés. C'est-à-dire que la plupart des autres dont j'ai parlé jusqu'à présent, même Grasshopper, ce sont des on vous donne plein de sous et vous allez voir, ce sera génial. Par contre, Quantic Dreams s'est fait racheter par NetEase. C'est aussi le cas pour alors là, c'était il y a même NetEase Montréal qui a été créé de toutes pièces,
oui, voilà.
avec la personne qui a créé la licence, qui a été à l'origine de la licence Watch Dogs, qui a été débauchée de chez Ubisoft. Sachant qu'en ce moment, débaucher des gens chez Ubisoft, c'est pas très très compliqué. et encore, c'était en 2021. Ouais. Mais encore maintenant, mais voilà. Et et le truc, c'est qu'en fait, la logique affichée à chaque fois, c'était donner des moyens illimités à des créateurs stars, leur laisser la liberté artistique, capter du prestige, tout en diversifiant le portefeuille au-delà du marché chinois. Donc là, c'est pour ça qu'on entendait parler surtout de NetEase chez nous, alors que c'était déjà un géant en Chine. C'était vraiment pour dire, on va essayer de s'imposer comme le nouveau gros éditeur, grosse maison mère de plein de boîtes. Du côté occidental et surtout du côté viens on crée des jeux vidéo en prenant tous ces gens qui sont des grands noms et qui ont été entre guillemets, avec des gros guillemets, vraiment enfermés par leur méchante boîte occidentale pour faire les mêmes jeux triple A
dans
tout
leur
le
créativité
et
dans voilà. Leur liberté de,
c'est ça.
De ton et de
et que grâce à la mère patrie chinoise grâce à NetEase et sa vision de la liberté créatrice pourront justement s'émanciper et permettre aux joueurs d'avoir de meilleures expériences.
Exactement, avec des jeux incroyables à venir. Voilà. Tel que c'est ce qui était effectivement prévu et promis à la base.
Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que voilà, en plus, on est dans voilà, le, comme je rappelle, hein, le contexte, c'est que les voilà, l'industrie du jeu explose pendant les années Covid. Là, tout ce dont j'ai parlé, là, tous les trucs dont j'ai parlé, en sachant qu'en plus, il y en a d'autres derrière, c'est en 2 ans. C'est entre 2020 et 2023.
Ouais.
C'est énorme. Enfin, c'est et des sommes à chaque fois. Je préfère pas les donner, mais c'est c'est en milliards d'euros.
Enfin, c'est, oui, l'investissement total. Oui.
L'investissement total, c'est en milliards d'euros et en milliards avec un S. Et bien le S. Hein.
Et tu as cité Quantic Dream en considérant qu'on sait déjà ce que c'est, mais c'est effectivement un groupe, enfin un studio français extrêmement connu, que ce soit par les joueurs de jeux vidéo ou les suiveurs de tribunaux. Voilà, ils ont quand même sorti effectivement les Beyond Two Souls, les Heavy Rain, Detroit Become Human,
ouais, Fahrenheit aussi
récemment, et ils ont commencé tout ça dans les années 97-98.
Avec Omicron Nomad Soul, c'est ça,
ouais. Le premier nom, enfin le premier jeu qui a donné un nom à David Cage,
ouais.
Avec la participation très active d'ailleurs
de David Bowie.
De David Bowie sur toute la classe.
Et voilà, et puis mine de rien, en termes de taille, un des plus gros studios en France aussi.
Oui, en termes effectivement de nombre d'employés basés dans la région parisienne, je ne sais plus exactement.
Je ne sais plus.
Mais effectivement, oui, c'était un. Alors, ils avaient déjà.
Ils ne sont pas à Lyon, c'est tout ce que je sais.
Ils avaient déjà fait une première. Comment dire, un premier bout. Ils avaient déjà racheté un petit peu des morceaux, une participation, je crois, dès 2019, NetEase, dans Quantic Dream, avant de racheter l'ensemble.
Il faut dire que, en fait, Quantic Dream, pendant très longtemps, était ce qu'on appelle une entreprise qui était vraiment vassale de Sony, vu qu'en gros tous leurs jeux ils les faisaient en exclusivité pour PlayStation, et qu'à partir du moment où PlayStation a dit bah en fait on vous commande plus de jeux, ils n'avaient plus de ressources, c'est-à-dire enfin ils n'avaient pas de ressources vu que leurs jeux sont très coûteux, très coûteux, ils sont obligés d'avoir un mécène, mais
s'est planté commercialement, mais effectivement comme tu dis ça leur permettait pas d'avoir de la marge, d'avoir un trésor de guerre qui leur permettait d'avoir
sachant qu'en plus vu que le deal qu'ils avaient avec Sony faisait qu'il y avait beaucoup d'argent qui revenait à Sony, hein.
Ah oui, non, bien sûr.
En termes d'exploitation,
participait énormément. Enfin, permettait en fait que le jeu existe, mais récupérait une énorme part sur le.
Mais Quantic avait une. En fait, c'était un petit peu comme le studio qui fait les Uncharted, Last of Us, etc.
Naughty Dog,
c'était considéré comme un studio first party, c'est-à-dire un studio qui, enfin, Naughty Dog appartient pas à Sony, mais globalement, c'est notre studio à nous, quoi.
Ils fournissent du contenu pour Sony.
Forcément, là, ils se sont retrouvés un peu.
Alimenter le catalogue des consoles, alimenter le catalogue de l'abonnement, du PSN, etc.
C'est ça. Avec le côté, ce sont nos jeux stars qui font acheter des PlayStation, acheter du matos, etc. Donc forcément, quand ils se sont retrouvés sans rien entre guillemets, hein, c'est-à-dire sans gros mécène, vu que de toute façon pour faire un jeu il leur faut plusieurs années et beaucoup de sous. C'est pour ça qu'il est arrivé 2 choses. Un, NetEase est arrivé, donc ils ont dit on veut bien de votre argent quel qu'il soit, et de deux, on va essayer d'éditer des jeux parce que ça peut ramener de l'argent. Quantic Dream ne faisait aucune édition de jeu avant, il y a 4-5 ans, quoi.
Ils faisaient ce qu'ils savaient faire.
Ce qui est normal. Oui. Ils sont lancés là-dedans, ils ont été obligés de diversifier aussi. Voilà.
Avec des propositions pas inintéressantes.
Comme Road 96, c'est chez eux, non?
Je sais plus.
Je suis pas sûr.
Oh bon, bref. Mais il me semble. Mais il y a eu Wake Still the Deep, je crois.
Alors, comme ça aussi. Under the Waves.
Under the Waves, c'était chez eux aussi.
Wake Still the Deep, c'est du Chinese Room.
Ah oui, pardon, je confondais.
Mais oui, bah, forcément, ils font des jeux où ils se passent sous l'eau avec des trucs horribles qui t'attaquent.
Bah oui, et ils sortent pas si longtemps entre les uns les autres, donc.
Mais ouais. Ils font pas d'efforts.
Mais effectivement, en tout cas, j'avais été étonné de retrouver sur c'était Star Wars Eclipse aussi, qui apparemment serait un jeu plutôt d'action, des jeux qui, alors que Quantic Dream, c'est vraiment les jeux narratifs. Donc,
oui, c'est ça, avec l'émotion qui se mesure au polygone.
Je crois que t'aimes pas trop David.
J'ai rien contre David Cage en soi. Il gère son studio de façon complètement toxique au point de se faire condamner devant les tribunaux pour ça. C'est quelque chose qu'on apprécie toujours ici.
Écoute, si t'aimes pas, n'en dégoûte pas les gens qui aiment. D'accord. Donc tout va bien vu que NetEase est le sauveur.
Et le mécène.
Le sauveur du jeu vidéo occidental.
Il se tirait la bourre avec Tencent, hein, qui fait pareil. Hein,
oui, alors Tencent l'a fait différemment, mais peut-être une autre fois.
Oui, en tout cas pour l'instant, les conséquences ne sont pas les mêmes.
Oui, mais en tout cas, ils l'ont fait aussi différemment sur le côté. Ils n'ont pas dit, tiens, on va prendre des gens à droite à gauche, leur faire créer des studios, et puis.
C'est ça.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'un jour, il faudrait prendre NetEase, Tencent et le Savvy Group d'Arabie Saoudite, ouais. Mettre un couteau au milieu, puis voir celui qui repart avec le plus gros morceau. Parce que, actuellement, il y a quand même, à mon avis, ça se joue.
Je dirais Jared Kushner, mais dans ce cas-là. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, donc, t'as NetEase qui est une sorte de. Alors, en plus, même époque, c'est une sorte d'Embracer. C'est-à-dire que Embracer a pris plein de. On se dit, ah là là, c'est les sauveurs du jeu vidéo. Toutes ces vieilles licences qu'on aimait et qui étaient sous les.
C'est plus vieux, ça a commencé de façon plus ancienne avec THQ Nordic déjà. C'était plutôt la voiture balai qui ramassait et ce qui.
Alors eux ils jouaient sur autre chose. Regardez la nostalgie, on va revivre des super licences que vous avez tous aimées.
Pas seulement, mais aussi récupérer effectivement des noms, des droits, des trucs au fur et à mesure avec des studios et tout. C'est un vrai sujet sur comment, c'est pourquoi c'est parti en vrille. Et puis les 2 milliards manquants, c'est ça. Venant d'Arabie Saoudite.
Et puis il y a un truc qui a commencé à donner la puce à l'oreille de. Il y a quelque chose qui va pas si bien. C'est que Blizzard, qui a travaillé depuis 15 ans, quasiment 15 ans avec 2009, c'est ça ?
Depuis, oui.
Ça faisait 15 ans qu'ils bossaient avec NetEase quand même, et on se disait, qu'en plus, c'était la manne d'argent de Blizzard, une des mannes d'argent de Blizzard qui tombait tout le temps. C'était bien 2009, c'est
ouais,
ça ?
2009, ouais, 2009,
voilà. Ça faisait 15 ans qu'ils bossaient ensemble. D'un coup, NetEase dit stop. Et pas stop, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre pour faire votre jeu. C'est non, votre jeu il est pas bien en fait. Il faut en fait, vous avez en prêté. Alors ce qui s'était passé à la base et les différents comptes rendus qu'on avait eu, c'était qu'il y avait eu des impolitesses de la part de Blizzard. Il y avait eu des dysfonctionnements, il y avait eu des imposés. Ils seraient crus chez eux à la maison et les Chinois auraient dit vous êtes impolis, et ben on arrête. Bon, c'est étonnant parce que les deux se faisaient vraiment beaucoup d'argent avec histoire-là quand même. Donc c'est très très étonnant. Et depuis, je crois qu'on peut toujours plus jouer actuellement.
Alors, il me semble que ça mais après, depuis que ça s'est racheté par. Ça a changé plus ou moins tout ça.
Oui.
Là, tout comme ça, là.
Oui, moi, alors on peut plus.
J'avais retenu qu'à un moment, ça s'était mis d'accord d'une façon.
Oui, avec un autre que NetEase. Et par contre, il y a toute une partie qui avait disparu, notamment les classiques ne peuvent pas être joués.
C'est vrai, parce que c'était à peu près au moment où Blizzard ressortait aussi.
C'est non. D'accord. C'est que c'est uniquement les. C'est uniquement la version vanilla.
Actualisée, quoi.
Voilà, c'est ça. Et déjà, on s'est dit, tiens. Bon, ils font exprès de s'asseoir sur beaucoup d'argent.
Oui, c'est louche.
C'est étonnant. Et ça, c'était en 2023. Et on a entendu parler d'une fermeture de studio.
Dès 2023.
Ouais, un petit et un japonais, donc on s'en fout. Évidemment.
Hein? Alors, c'est toi qui as donné le nom de l'émission, le sujet de l'émission. Tu parlais des investissements de NetEase dans les studios occidentaux.
C'est ça.
Voilà.
Voilà, donc c'est pour ça, on s'en fout.
Ah, tu assumes.
C'est pour ça, on s'en tape. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on a, on a commencé à parler d'un truc qui s'appelle Marvel Rivals, qui a, quand il est arrivé, tout pété.
Ouais.
En termes de score.
Ouais, c'est assez récent, effectivement. C'est décembre 2024, la sortie de Marvel.
Oui, c'est ça. Donc, en gros, c'est. Sachant que moi, j'ai vraiment voulu dater le changement radical à partir de fin 2024, début 2025. Et le truc, c'est qu'on arrivait à un cas très rare où, pour une fois qu'il y avait un jeu, un hero shooter type Overwatch, etc., qui. Cartonne.
Qui ne meurt pas dans les 3 minutes après sa sortie. Ouais.
Sachant que, je vais être clair, en hero shooter, en fait, c'est simple, t'as celui de Riot. Mm-hmm. Je vais manger son nom.
Valorant,
voilà. Tu as Overwatch. Mm-hmm. Et les autres, c'est compliqué. c'est compliqué.
Je dis,
c'est compliqué. Bah, pas, voilà, je dis pas qu'il y en a pas derrière, mais oui, il y a ces deux gros mastodontes et derrière, les autres ramassent les miettes.
C'est ça.
Et lui, justement, Marvel Rivals arrive et se tape un nombre de joueurs absolument fou.
Mais parce qu'il était très très bon.
Ah, mais c'est.
Oui,
mais j'en doute pas.
Effectivement, je pense que la licence Marvel avec tous les
super-héros. Ça joue, ça joue.
Tu peux faire des trucs.
Après,
oui, après, DC est bien placé pour savoir que la licence, ça fait pas tout. Même si t'as un jeu de merde, d'un moment, ça passe pas.
De façon générale, c'est quand même assez rare qu'un jeu de merde fonctionne.
Voilà.
Faire un bon jeu ne suffit pas toujours, mais si tu fais un bon jeu qui en plus effectivement est correctement marketé et correctement soutenu, effectivement Marvel Rivals, je crois qu'ils avaient
c'est double combo,
il est sorti en plus à peu près partout en free to play avec microtransactions et je crois qu'ils ont atteint les 600 000 joueurs simultanés sur Steam
et en plus comme ça. C'était marrant parce que tu te disais en fait c'est à un moment t'avais ce truc là qui se disait c'est Marvel en fait le cinématique univers où tout le monde de plus en plus en a rien à foutre, mais entre Marvel Snap et après Marvel Rivals les deux qui se sont enchaînement, tu dis ok, Marvel en fait c'est les sous.
Mais ça marche encore. En tout cas, le public. Tu leur proposes un jeu qui n'était pas non plus déconnant, Marvel Rival, Marvel Snap, en tant que mécanique de jeu de cartes était bon. Donc c'est un bon exemple.
Voilà. Sauf que, NetEase.
C'est là que tu vois la différence, parce que le jeu fonctionne encore relativement bien. Il y a encore 30 000 joueurs simultanés tous les jours.
Oui, ça marche bien.
Donc le jeu n'est pas forcément.
C'est NetEase, malgré le fait que ça pète tout, NetEase a décidé de faire des licenciements radicaux dans le studio qui venait de sortir le jeu, alors qu'il y avait. A priori, aucune raison de le faire, vu que ça marchait du feu de Dieu, que les gens en demandaient toujours plus, c'est-à-dire plus de mises à jour, plus de contenu, tout le temps. Donc tu dis, c'est pas le moment de virer les gens, au contraire, quoi. Bah non, ils en ont viré des centaines sur le studio qui le faisait. Et ça, c'est assez inédit. c'est simple, c'est jamais que ça arrive. Et. Quand on fouille un peu à l'époque, notamment dans les déclarations qui avaient été faites par les gérants de NetEase, enfin, les gérants de NetEase qui parlent aux Occidentaux, globalement, ils disaient que la croissance des revenus jeux de manière générale stagnait. Pas baissait, ça gagnait de l'argent, mais il n'y a pas la croissance de chiffres prévue, quoi. La concurrence est féroce, notamment par deux entités. Une entité qui s'appelle Tencent, et l'autre entité qui s'appelle MiYoYo. MiYoYo, c'est Genshin Impact.
Ah oui.
Et Genshin Impact, ça imprime de l'argent juste en te regardant. Donc, c'est. Voilà. Et par exemple, aussi fort qu'a été Marvel Rivals, rien à voir avec les chiffres de Honkai Star Rail ou de Genshin Impact. C'est de la folie, ces jeux-là. En termes de ce que ça rapporte, c'est sans commune mesure. Sachant qu'en plus, nous, on n'a pas accès aux chiffres intérieurs chinois.
Parce qu'en fait, Marvel Rivals, c'était évalué, je crois, 10 millions de joueurs simultanés, un truc dans le genre, au moment de. À sa grande forme. Donc c'est quand même.
C'est phénoménal.
Support confondu, etc. Là, tu viens jouer dans la cour de Fortnite. Là.
Oui, c'est phénoménal. Et ouais, mais Genshin Impact, en fait, avait battu ça depuis longtemps et régulièrement, quoi.
Oui.
Donc c'est
un jeu tellement différent que ils se battaient pas sur le même. Concurrents en termes de
ils
genre.
Ils sont pas sur le même marché directement.
Ils sont pas concurrents en termes de genre, ils sont concurrents sur l'attention.
Oui, mais c'est exactement là-dessus. Donc, pour le coup, là, on parle plus de. Je suis désolé, mais on parle plus de jeux vidéo.
Non, mais c'est ce qu'on.
Là, on parle vraiment de rétention.
J'avais vu effectivement cette discussion justement sur j'ai oublié le nom du site qui fait des podcasts intéressants, l'ancien de
GameIndustry.biz
qui se refait Ring, qui fait maintenant un podcast plutôt cool, qui avait dit en fait tout simplement que il faut arrêter de considérer l'industrie du jeu vidéo comme un ensemble, mais plutôt comme c'est-à-dire que tu vas prendre effectivement ces jeux qui te prennent énormément de temps, de la rétention. Tu vas les comparer tu vas les mettre en concurrence avec Netflix, tu vas les mettre en concurrence avec les activités sportives pour les gamins, tu vas les mettre en concurrence finalement avec tout ce qui te prend du temps, tout le
Bien
temps
sûr.
Que tu as dans ta journée, et que effectivement Marvel Rivals sera jamais un concurrent de je sais pas qu'est-ce que d'un WoW, enfin tu vois, parce que c'est pas le même genre de public, c'est pas le même genre de jeu, ou d'un il va être sur plus ou moins le même type de joueur que Counter-Strike par exemple, mais il va pas du tout être sur le même marché qu'un Pokémon. parce que c'est pas le même, la même activité, tu joues pas de la même façon, tu joues pas au même rythme, tu joues pas avec la même, avec sur les mêmes supports, tu joues pas dans les mêmes investissements. Donc c'est, mais ouais, c'est pour ça que effectivement,
mais là,
c'est intéressant comme évolution, parce qu'on le voit réellement dans les décisions prises de ce genre.
Bah en fait là, la décision de alors que ça marche super bien, de couper en fait, d'essayer de dire bon bah on licencie plein de monde et on essaye de faire quand même de la rétention. L'objectif, il est simple, il est de remonter la profitabilité, parce que ça reste des free-to-play qui demandent des serveurs, qui demandent des sous pour que ça tourne, et que les joueurs payants, c'est bien, mais si en fait on paye moins de gens pour faire pour la maintenance, et ben ça profite mieux. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué
en même temps,
que ça.
Le jeu, il est sorti. Pourquoi on garde les gens qui ont fait le jeu?
Ben,
y a plus besoin. Alors, le jeu, il est fini.
C'est un jeu service, c'est pas un jeu premium, c'est ça le truc.
Et bizarrement, ça les a pas empêchés de continuer à produire du contenu, parce qu'ils ont pas viré tout le monde, ils ont pas fermé le studio qui le faisait, ils ont viré le directeur du studio, et ils ont viré effectivement un certain nombre de gens. J'ai plus le nombre exact. Sous les yeux, parce que je l'avais.
J'étais sur une centaine quand même. Hein.
Oui, mais parce que le studio à la base, effectivement, était, bah, pour faire un jeu, on va dire, aussi ambitieux, il y avait quand même du monde sur la base.
J'étais sur une centaine de licenciements, ce qui n'est pas rien.
Hein. Ah non, c'est quand même massif, on est bien d'accord. Mais oui, le jeu existe toujours.
Mais il marche bien. Le but, c'était. Une fois de plus. Hein.
Oui, la question, c'était.
Amusez-vous à vous parler de jeux vidéo. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas dans cette conversation-là. Moi, je veux parler gros sous et lutte sociale.
On avait déjà eu cette discussion sur des jeux effectivement qui se sont plantés.
Oui, effectivement.
Mais là, tu pouvais comprendre d'une certaine façon. Il y avait une certaine logique. Le jeu ne rapporte pas d'argent.
Même si
tu peux comprendre.
Et à ce moment-là, on se disait que la responsabilité, elle aurait dû être aussi partagée entre les travailleurs et les preneurs de décision.
Bien évidemment.
Parce que les preneurs de décision, ils ont dit ça marche très bien. On vire des travailleurs pour que ça nous rapporte encore plus.
Bah, c'est ça.
Oui.
Et effectivement.
Et vive le capitalisme.
Voilà.
Mais
chinois.
Là où c'est intéressant, effectivement, comme tu le disais, c'est que c'est la première discussion qu'on a sur le sujet à propos de NetEase et de ses investissements dans, comme tu le rappelais tout à l'heure, beaucoup de studios de création, d'accompagnement, ce genre de choses. Mais comme tu le disais aussi, c'était quoi, 2022, 2023, dans ces eaux-là, enfin ces investissements-là, enfin voilà.
Entre 2021 et 2023.
Ouais, voilà. Donc c'est une période, en fait. Où tu le disais, c'est pas comme s'ils achetaient des studios, à part Quantic.
Ouais.
Ils achetaient pas, ou très rarement,
à
des
part
studios.
À part Quantic et Grasshopper, ce qui était établi, voilà. Tous les autres, c'est des nouveaux studios.
Et du coup, nouveaux studios, nouvelles équipes, tu repars de zéro, le temps que les gens sortent le jeu.
Le truc, c'est que là, ce dont on entend parler en ce moment, quand on entend parler de gros désengagement ou de fermeture de studios, ce sont des studios qui ont. Pas de sortie de jeu, quasiment.
Certains, effectivement, n'ont même pas. Ils ne sont même pas arrivés jusqu'à sortir un jeu. Effectivement.
Mais en deux ans, on ne va pas les blâmer, quoi.
Bah oui, non.
Après, ça dépend de ce
qu'ils attendaient. Surtout quand on leur demandait de faire des triple A, ça se fait pas comme ça.
On n'a pas tous les chiffres dans le sens d'investissement. Combien ils investissent.
Rien, t'auras que dalle. Tu remarques d'habitude, quand on fait un sujet, je dis, ouais, tant de milliards, tant de. Là, j'ai rien du tout, parce que.
Mais oui, c'était terrible, ce sujet.
C'était relativement opaque.
Tout ce qu'on sait, c'est beaucoup. Parce que pour que des Occidentaux disent, ok, on y va. Même si on sait que potentiellement ce sont des investisseurs chinois et qu'il y a des risques, la somme derrière doit être absolument stupide.
Mais ouais, du coup on se retrouve effectivement. En fait, tu as eu, je pense, cette première période de on file du pognon pour le futur, finalement, que le temps que les jeux soient créés, etc. Et il y a eu visiblement une légère évolution dans le projet, on va le dire comme ça, parce que comme tu le disais, depuis fin 2024, début 2025, quand tu parlais de Marvel Rivals, donc sorti fin 2024, sorti décembre 2024, les licenciements dont on parlait datent de mi-février 2025, donc deux mois après la sortie, donc au moment où on s'était déjà rendu compte que c'était un énorme succès. Et ça a plus ou moins coïncidé finalement avec d'autres désengagements, avec d'autres licenciements, réductions de budget, voire fermeture dans certains cas. Il y a eu, je crois que c'était d'abord Stephen Totilo qui l'avait un petit peu rappelé, qui avait eu effectivement tout un ensemble de studios qui avaient été créés pour être arrêtés d'être financés ou fermés ou ce genre de choses, et ça a commencé vraiment, il y a eu le début de la vague, quoi, février 2025, et c'est vrai que c'était... Mais ils avaient déjà fini par... Enfin, a commencé par fermer Ouka Studio en août 2024, qui était donc juste après la sortie de Vision of Mana.
C'est le studio de Nagoshi, hein,
voilà,
c'est ça
le studio japonais dont tu parlais tout à l'heure, effectivement.
C'est ça. C'est pour ça, le premier studio, on s'en fout, c'est qui ?
Mais eux, ils ont sorti un jeu. Ils ont sorti leur jeu. Non, mais ils ont sorti leur jeu.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, juste après, tout le monde dégage. Hein.
Ouais. C'était quand même un peu particulier, mais effectivement, ils ont mis en pause certains studios. Jaro Sparks, par exemple, a été mis en pause officiellement. Ils ont fermé T-Minus Zero en août de cette année, avant de le vendre en septembre. Enfin, la liste, elle est étonnamment longue, en vrai. Avec derrière, on a un petit peu des infos sur ce qui était prévu, sur ce qui aurait dû être fait, sur quoi ils travaillaient, etc. Et c'est assez étonnant. Bon, pour l'instant, ils ont toujours les droits chez Grasshopper là, de Romeo is the Dead Man qui vient de sortir.
Mais ça va pas.
Ça dépend. Il y a eu, en fait, comme j'avais vu dans les reviews, de façon générale, c'est du Grasshopper, c'est du Suda Goichi, c'est si tu aimes, tu aimes. Si t'aimes pas, tu as vraiment pas aimé. Et tu as aussi des gens qui aimaient les précédents jeux et qui n'ont pas du tout aimé celui-là. Mmh. Et inversement. Donc,
ah, pardon, excuse-moi, toi tu parles encore de jeux vidéo. Ça va pas. Voilà. Ça ne se vend pas. Ah. Voilà. Excuse-moi.
Et oui.
Non, parce que.
Mais bon, des fois, tu sais.
Non, mais je comprends ta méprise.
Non, mais des fois, c'est lié. C'est-à-dire, bon, voilà.
Honnêtement, j'en sais rien.
On peut reparler d'Aigard, qui ne s'est pas vendu parce qu'il n'est pas bon. Enfin, je veux dire, il était gratuit, mais c'est pas la question.
Non.
Il s'est pas vendu alors qu'il est gratuit, quoi.
Quelle violence.
Les gens n'ont pas donné d'argent dans un jeu gratuit. Encore une fois, Marvel Rivals, c'est un jeu gratuit. Oui. Les gens mettent de l'argent quand même dedans.
Ils en ont mis pas mal, hein, justement, pour avoir de la licence. Je peux avoir tel personnage de comics que j'aime bien. Go.
Mais oui, effectivement. Et puis ça continue. Je veux dire, c'est un mouvement qui a duré surtout 2025, qui est encore en cours, puisque déjà en janvier, là, ils ont viré un certain nombre de personnes dans leur studio NetEase Montréal, que tu avais évoqué.
Oui.
Et ça impacte. Voilà. Officiellement, ça impacte principalement la QA, donc le Quality Assurance.
Officiellement, oui.
Oui, mais enfin, bon, on sait bien. De toute façon, c'est eux qui prennent en premier, de façon générale.
Parce que c'est plus simple.
Et parce qu'il y a des gens qui, depuis quelques temps, t'expliquent que. Mais de toute façon, la QA, l'IA peut le faire.
En plus, ils ont une ils ont la seule tendance à se syndiquer. Donc.
C'est marrant, hein?
C'est fou ça.
Étant en première ligne, étant les plus vulnérables, étant faisant virer en premier, c'est ceux qui syndiquent le plus. Je comprends pas. Moi,
c'est quand même marrant cette aversion des États communistes pour le syndicalisme. Enfin bon, bref.
C'est fou, hein.
C'est étonnant.
C'est fou. On en parlait il y a pas longtemps. Dans cette émission.
C'est vrai. Ça me dit quelque chose.
Mais oui. Enfin, ils ont. Alors, ils ont pas fermé de. Je crois le studio en question.
Ils ont réduit
les studios
qui ferment en vrai.
S'il y en a eu quelques-uns, T-Minus Zero a fermé.
Oui.
Celui qui a été donc fondé par Rich Vogel, un ancien de BioWare. Bad Brain Game Studio aussi a fermé.
Fantastic Pixel Castle aussi a fermé, me semble-t-il. Mais en fait, il y a une différence entre NetEase prend la décision de fermer. Et NetEase dit, en fait, j'enlève mes billes et le studio n'a pas d'autre choix que de fermer, ce qui est différent.
Mais cela, en tout cas, cela était, on va dire, vraiment faisait partie complètement de la galaxie. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque, effectivement, parce que tu as, c'est pas les seuls qui ont ce genre de conséquences. On en avait parlé quand il y avait eu des licenciements et des réductions de budget, notamment Microsoft, il n'y a pas très très longtemps, qui avait réduit énormément ses investissements. Et le pognon qu'ils mettaient dans certains studios, etc. T'avais eu les conséquences pour John Romero, par exemple.
Oui.
Il avait son jeu en cours de développement avec, et Crystal Dynamics aussi, qui bossait sur le remake de Dark Machine.
Sur Perfect Dark.
Perfect Dark, merci. Bah, tu vois, et là, c'était de l'investissement retiré, des billes retirées qui entraînent ou la fermeture du projet ou la fermeture du studio.
Ah, bah là, c'était fini.
Donc, alors que, bon, dans le cadre de Romero, visiblement, il n'est pas encore. C'est pas encore terminé, mais oui, effectivement, il y en a eu un certain nombre de ça. C'est une vraie dynamique qui continue jusqu'à encore, j'ai envie de dire...
aujourd'hui ?
Ouais, ce matin même, en fait. J'ai vu ça tout à l'heure, c'est Spliced Inc., qui est le dernier en date. Oui. Donc un studio fondé en 2023. Là, c'est une info de, vraiment du 19 février, donc vraiment d'aujourd'hui.
Le nerf de la game au cœur de l'actu.
Ah, mais, ouais, enfin bon, ça vient de Game Developer.
Breaking,
hein,
news. Breaking mais... news.
C'est ça. Mais ça correspond effectivement tout à fait au sujet. Finalement, c'était le choix du sujet. Voilà. Enfin, je pense que c'est toi qui as envoyé un mail à NetEase en disant on va parler de vous.
Est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pourriez faire fermer un studio pour que ça correspond, pour justifier le choix de.
Pour l'instant, en tout cas, ce sont des licenciements qui sont annoncés. Mais pas encore une fermeture du studio, comme d'habitude. Hein, là, c'est spécifiquement un animateur qui dit que son job a été considéré comme redondant, comme c'est si joliment dit. Mais c'était effectivement un studio fondé en 2023 par NetEase, ou en tout cas avec l'argent de NetEase. Et ça, enfin, comme tu dis, il y a vraiment c'est général, quoi. Il y a vraiment un mouvement général. On avait eu aussi le cas de Anchor Point.
Ouais, j'allais en parler.
Qui avait été lui aussi abandonné par NetEase, mais qui veut encore et qui cherche encore et qui risque de réussir à survivre avec d'autres investissements d'une autre sous une autre
forme. C'est ça. En fait, eux, ça a été le cas où NetEase a dit, en fait, on coupe les vannes. Et de toute façon, vous êtes un studio indépendant, vous allez bien pouvoir vous démerder. Et eux, ils ont dit, écoutez, on est devenu indépendant, et donc on a tel projet, sans dire lesquels évidemment, et que ça pourrait être intéressant pour des gens qui ont un peu d'argent.
Et ils sont en train quelques millions de trop.
Voilà, ils seraient. Je garde le conditionnel. Ils seraient en train de réussir leur pari.
Mais c'est un exemple.
C'est un sur 10. Hein.
Ouais,
les autres ont tous disparu.
Comme tu disais, il y a effectivement ce mouvement entre les licenciements, les réductions, les licenciements de gens auprès de studios qui leur appartiennent, entre guillemets, les réductions de financement dans les studios partenaires qui entraînent des licenciements ou qui entraînent des arrêts de projets, ou directement vraiment des fermetures complètes comme celle-là. Celle-ci, c'est... c'était le statut juridique en tant que partenaire qui leur permet toujours d'exister, de garder leur nom, de garder leur propriété aussi intellectuelle. J'imagine que ça aussi, ça faisait partie des deals.
C'est ça.
Propriété intellectuelle des travaux en cours.
C'est vrai, c'est une remarque que m'a fait de mon fils ici présent quand je lui ai parlé du sujet de l'émission, et il m'a dit, mais en fait, sûrement quand ils ont acheté plein de gens pour qui sont très forts en jeux vidéo, ils les exploitent en fait pour qu'ils commencent à faire des choses, et ensuite, vu que ça leur appartient, selon le contrat qui a été fait, ils peuvent récupérer le savoir-faire, peuvent récupérer le code, peuvent récupérer les idées et le faire développer en interne sur des projets internes en Chine. Sachant que à la base, un truc que j'avais oublié de parler aussi, c'est que si le NetEase était beaucoup allé vers l'Occident, c'était parce qu'il y a eu de grosses restrictions sur la pratique du jeu vidéo en Chine aussi.
Les autorisations, la mise d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux jeux en Chine a été extrêmement réduite pendant presque 2 ans.
C'est ça. Et que,
avant de rouvrir les vannes récemment. Mais...
C'est ça. Et ça ne doit pas être étranger aussi à ce retour en arrière côté NetEase aussi. Mais
et puis oui, à l'interne, les moyens aussi internes, et puis même le marché aussi local. Et puis,
c'est ça.
On sait comment fonctionne le Parti communiste chinois au pouvoir, à faire souvent des allers-retours sur certaines décisions de liberté et de contraintes. Pour garder suffisamment de marge sur la laisse qui tienne.
Oui, et puis il ne faut pas oublier aussi que, comme le disait Bettina, que ça soit NetEase ou Tencent, ce sont des boîtes qui sont absolument gigantesques et qui reposent quasi entièrement sur le marché interne. S'ils ne touchent plus le marché interne, comment tu fais tourner un truc aussi gros? C'est quasiment impossible.
Alors,
c'est quasiment impossible.
Je voulais finir un peu là-dessus.
Je t'en prie.
Là, on a eu les chiffres le 16 février, donc lundi. On a eu les chiffres de 2025 pour NetEase. Donc, globalement, on va dire que leur tactique fonctionne financièrement, puisqu'ils ont une augmentation de leurs revenus de 6,9% pour atteindre les 16,1 milliards sur 2016. Mm-hmm. La partie jeux vidéo augmente de 10%, elle, grâce notamment à Fantasy Westward Journey Online.
Ouais.
Where Winds Meet, qui est sorti toute fin
Where Winds Meet, ouais, je l'ai vu jouer aussi en stream par des potes. Ouais. Celui-là est traduit par contre.
Oui, celui-ci c'est vraiment, on va dire, à visée globale. Oui. Ouais. Clairement, c'était pas uniquement. Mmh. Mais c'est ambiance extrêmement chinoise, même mythologie, etc. Et puis dans une sorte de côté un peu médiéval chinois, etc.
Ouais.
De
très wuxia,
ouais. Ouais, très, exactement. Mmh. Et Marvel Rivals aussi qui fonctionne toujours, toujours plutôt. Pas mal. Donc et voilà, c'est les chiffres là de.
Ce sont des résultats qui intègrent le, qui intègrent les chiffres internes ou pas.
Ce sont oui, parce que c'est le groupe, c'est le groupe, c'est le groupe. Enfin, ouais. c'est le groupe, en fait, NetEase et le groupe NetEase Games dans son ensemble. C'est comme ça que c'est présenté.
En fait, je dis ça parce que par exemple au Nasdaq, c'était uniquement les. Activités hors Chine qui étaient représentées dans les actions Nasdaq, et donc je me demande si les déclarations qu'ils font c'est aussi pareil, c'est-à-dire tout ce qui est hors Chine, parce que ça m'étonne en fait qu'ils soient aussi transparents sur ce qu'ils gagnent à l'intérieur de la Chine, tu vois, et en que limite pour de la Chine t'as un petit quoi, 16 milliards c'est ça, bah ça me paraît pas tant que ça. c'est fou, hein. Mais
je comprends ce que tu veux dire, mais c'est 10% de plus que 2024.
Oui, mais pour des jeux, enfin vu les performances de
Where Winsmith
ou de Marvel Rivals, qui sont des choses qui sont tournées vers l'extérieur, ça ne m'étonne pas tant que ça. Encore plus si en revenu brut, ben ils virent plein de gens, sachant que ils ont fait beaucoup d'investissements qui ont dû gréver aussi leurs résultats nets.
Là, on parle de
parce que entre 2021 et 2023, ils ont claqué une thune absolument démentielle. Donc, ça doit aussi, tu vois.
Mais du coup, là, c'est effectivement que les revenus. Le détail derrière est un peu plus. Mais chose intéressante, il y a un jeu notamment qui est en cours de développement avec par Joker Games, qui est un studio japonais. Qui est un jeu de pirate dont j'ai oublié le nom exact.
Le fameux AAA qu'ils veulent faire eux-mêmes, c'est ça.
Ils ont montré déjà beaucoup de cinématiques, etc. Et qui avait été l'occasion donc d'inviter. GameIndustry.biz, un journaliste en fait payé par NetEase pour venir rencontrer le studio et voir comment ça
fonctionne. C'était le Tiny Tina pirate.
Oui,
là.
Très coloré. Oui.
La Tiny Tina pirate, le visuel est quand même très marqué.
Sea of machin là.
Sea of Tiny.
Sea of Borderlands là.
Sea of Borderlands, on va l'appeler comme ça. Non, je suis mince, j'ai plus le nom. Bref, mais ça faisait partie en fait aussi de la discussion sur. Parce que NetEase a été. On va dire pas très très vocal, mais quand même un minimum, à communiquer un minimum sur sa façon et sa volonté évidemment d'intégrer l'IA dans le cycle de développement et d'innovation de leur partie jeux vidéo. C'est important de finir comme ça, dans des domaines évidemment qui incluent l'art, le design, la programmation, l'animation et la qualité assurance.
Oui, remplaçons les humains par l'IA.
Voilà, dans le cadre de la création artistique, ça... Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Après, je pense que si tu poses la question au Parti communiste chinois, est-ce que c'est mieux des Chinois ou est-ce que c'est mieux des IA? Obéissant, les IA. Ça révolte moins.
Sea of Remnants,
c'est
le nom
c'est ça.
Du jeu qui c'est sera free to play, qui est annoncé pour dans pas très très longtemps. Il y a une alpha là qui est déjà plus ou moins accessible auprès des personnes à qui on a donné l'autorisation d'y aller. Mais voilà, c'est le gros projet tourné vers l'extérieur également, qui sera un free to play. En fait, je ne serais pas étonné qu'il soit taxé d'être le.
Sea of Thieves the Killer. Oui, bonjour.
Ubisoft. Le quadruple A.
J'étais sur Black Flag. Skull and Bones.
Skull and Bones, le
vrai.
Le Skull and Bones Killer.
Il s'est tué tout seul, Skull and Bones. C'est pas compliqué quand même.
Dans le sens où, voilà, regardez comment on fait. Moi, tu vois, je vois un peu dans cette façon-là. Ouais, et lui aussi, donc, extrêmement tourné vers l'extérieur et vers le global, vers le marché global.
Sachant que, voilà, évidemment, alors je le répète, hein, je n'ai pas parlé une seule fois de qualité de jeu vidéo dans toute cette émission. Il y a sûrement des jeux qui ont été produits qui ont pu être produits durant cette période-là, et d'autres certains qui ont été bons, certains qui ont été mauvais. J'ai pas abordé non plus le fait que les jeux chinois soient de plus en plus qualitatifs même d'un point de vue entre guillemets occidental des choses, c'est-à-dire que la manière dont les Chinois jouent aux jeux vidéo et ont des réflexes de jeux vidéo, c'est pas les mêmes forcément qu'en Occident. Exactement comme en Occident, on a appris à jouer avec les codes japonais du jeu vidéo, etc., etc. Donc ça, c'est du coup, je parlais pas du tout de ça, mais je trouvais ça important le fait de voir que l'intrusion justement de NetEase dans les investissements des boîtes occidentales avec des grands noms, avec des grandes promesses
et des gros billets
n'est pas, en fait, c'est exactement avec des stratégies qui sont identiques avec celles qu'on a pu trouver chez des Microsoft, chez des Activision, chez des Electronic Arts, etc. Le capitalisme n'est pas que américain. Voilà.
Le seul truc que je finirais là-dessus, c'est que tu parlais de jeux qui viennent de ces investissements-là. Oui. Au final, il n'y en a pas eu tant pour l'instant. C'est non. Ça, en fait. Parce qu'on est encore dans cette phase de création. Et puis, il y a certains, on leur a coupé un peu les.
La plupart vont crever, donc il n'y aura pas grand-chose, voilà, a priori.
C'est pour ça, en fait, que. Déjà, qu'il y en ait certains qui soient sortis, c'était déjà. C'était déjà beau.
Voilà, très bien.
Voilà.
Eh bien, merci Bettina.
Merci Xavier.
Merci Romain.
Merci Xavier et merci Bettina.
Merci Victor.
Ouais, merci pour ta présence.
Merci pour ta présentation longue, intéressante. Le tunnel, t'aurais pu éviter, mais bon, écoute, on a fait avec.
Le pauvre.
On se retrouve la semaine prochaine. On remercie le collectif Presse F5, comme d'habitude, on retrouvera cette émission sur nerdelagame.pressef5.fr et sur toutes les plateformes à droite, à gauche.
D'écoute,
c'est ça.
Pas les plateformes de NetEase.
Bah, de toute façon, a priori, s'ils veulent nous diffuser, nous, bah, bizarrement, je pense que cette émission-là.
Ouais, t'inquiète, tu l'as fait traduire par l'IA, ça sera vite. Ouais.
Je vais demander à Stier de faire la vignette, ça va le faire.
Yes.
Voilà, et du coup, on se retrouve la semaine prochaine et le 24 février, si vous êtes chaud, au Troquet Taquin pour une session de Sex Nerd and Rock'n'Roll.
Quiz, ouais. Blind test et on rigole.
C'est ça.
Gloire au capitalisme et à l'IA générative.
Voilà, merci. Bah, gloire au parti.
Ça, il faut isoler cette phrase. on va te la mettre en jingle.
Ah, ça va être la tagline à chaque fois, le jingle Bettina.
Merci tout le monde.
Salut.
Salut. Salut.